Chapitre 3. Les débris de verre éparpillés sur la moquette crissent sous les pieds de Junalina lorsqu'il pénètre dans la chambre d'hôtel. L'homme au visage fripé est pendu à une corde. Son corps se balance d'avant en arrière, de part et d'autre de la fenêtre, avec un lent grincement. Sa chemise est maculée de sang au niveau du torse en raison de la blessure profonde qui lui entaille le cou. Des éclats de verre se détachent du cadre et tombent sur l'appui de fenêtre. Ces dernières paroles résonnent encore dans la tête de Juna. Les mots s'introduisent en lui comme un serpent qui ondule, sans s'installer ni chercher à sortir. Juna sait que l'homme est mort, que ses vertèbres cervicales sont fracturées. Pourtant, il faut qu'il prenne son pouls. Alors qu'il tend la main pour saisir son poignet, la sonnerie du téléphone retentit. Juna ouvre brusquement les yeux, se saisit de l'appareil posé sur sa table de chevet et, avant le second signal, il répond d'une voix étouffée. « Désolé d'appeler si tard », dit un homme. Juna sort du lit tandis que Valeria entr'ouvre ses yeux endormis. Il lui caresse la joue et quitte la chambre, le téléphone collé à l'oreille. « Oui ?» demande-t-il à voix basse. « Mon nom est Valid Mohamed. Je travaille à la police de Stockholm, quartier sud. Je voulais vous prévenir. À minuit et demi, le 112 a reçu un appel de Johanna, l'épouse de Margot Silverman. Margot s'était rendue au centre équestre de Beatlund, près de Gustavsberg à Värmdö, à 21h. Mais elle aurait dû être rentrée chez elle depuis longtemps. Johanna ne pouvait pas laisser les enfants seuls, mais elle craignait que Margot ait eu un accident. L'opérateur a donc envoyé une patrouille sur place, et les collègues viennent de faire leur rapport. Ils n'ont pas trouvé Margot, mais il semble y avoir beaucoup de sang sur le sol de l'écurie. Je sais pas, je me suis dit que vous voudriez être au courant. Merci, je pars sur le champ, répond Juna. Assurez-vous que personne ne touche à rien. C'est important. Demandez aux collègues de ne pas bouger jusqu'à mon arrivée. Je prends le relais et j'arriverai avec mon propre technicien. Juna raccroche, puis appelle son vieil ami Eriksson pour lui expliquer la situation. Il est 2h05 du matin. La voiture de patrouille est arrivée au centre équestre il y a 3/4 d'heure. 95 minutes se sont écoulées depuis que Johanna a appelé le 112. Mettre en place des barrages routiers ne servirait à rien. Pour l'instant, tout ce qu'ils peuvent faire est d'enquêter sur place pour essayer de découvrir ce qui s'est passé. « Ok, » murmure Eriksson. « Je sais que ton dos te fait souffrir, mais c'est bon, t'inquiète pas. J'ai besoin du meilleur technicien. » Mais comme il ne répondait pas au téléphone à 7h de la nuit, tu m'as appelé à la place. Plaisante Eriksson dans une tentative de dissimuler son inquiétude. Après avoir fixé rendez-vous à son collègue à l'entrée de l'écurie, Juna retourne dans la chambre pour s'habiller. Valeria quitte le lit dans sa fine chemise de nuit et se couvre les épaules avec un gilet. « Qu'est-ce qui se passe ? » demande-t-elle. Juna enfile rapidement la montre-bracelet que lui a offerte sa fille Lumi, qui trouvait que le cadran était du même gris que ses yeux. « Un collègue a appelé. » explique-t-il en boutonnant son pantalon. « Je dois y aller. » « C'est... » Il se tait et croise son regard. « Quelqu'un que tu connais ?» constate-t-elle. « Oui, c'est Margot. Elle n'est pas rentrée de sa séance d'équitation. » répond-il en enfilant sa chemise. Que disent les premiers agents sur les lieux? Ils ont retrouvé sa voiture. Et il y a des traces de sang dans l'écurie. Merde! Oui, je sais. Il se précipite vers son coffre, tape le code, sort son Colt combat et enfile son étui d'épaule tout en se dirigeant vers l'entrée. Valeria le suit, lui fait un rapide baiser et referme la porte alors qu'il court déjà vers l'ascenseur. Pendant que le portail automatique du parking s'ouvre, Juna pense à Margot et à leur première rencontre. À l'époque, elle était encore une jeune inspectrice, enceinte jusqu'au cou. Elle l'avait laissé participer à son enquête alors même qu'il n'était plus flic. Aujourd'hui, il est inspecteur principal à la NOA. À lui seul, il a résolu plus de cas d'homicides complexes que quiconque dans les forces de police d'Europe du Nord. Il vit avec Valeria de Castro depuis 6 ans et a une fille adulte issue d'un premier mariage. Installé au volant, Il remonte l'allée du garage et emprunte la ruelle à l'arrière de son immeuble avant de tourner à gauche sur Sveavägen et de foncer en direction du tunnel de Clara. Il n'y a presque pas de circulation à cette heure de la nuit. Stockholm disparaît dans son rétroviseur. Les gratte-ciels et les centres commerciaux illuminés, les bâtiments industriels, les zones résidentielles et aussi les ponts immenses qui enjambent des détroits et des baies. Deux voitures de police sont garées de part et d'autre de l'entrée du centre équestre. Le faisceau bleu des gyrophares balaie les arbres et l'asphalte. On dirait des vagues qui lèchent le sol, poussées par de fortes rafales de vent. La fourgonnette d'Erickson est déjà stationnée de l'autre côté de la route. Il habite à Gustavsberg, à seulement 5 minutes de là. Après s'être garé sur le bas-côté, Juna s'avance vers ses collègues, les salue et leur demande de barrer l'accès. La nuit est fraîche. Le paysage autour est plongé dans le calme et l'obscurité. Outre l'écurie, il n'y a aucune autre habitation dans les environs, juste la forêt et les prés. Le corps imposant d'Erickson se déplace dans la lumière des phares de sa fourgonnette. Il est penché sur les traces laissées par les pneus des voitures qui sont sorties vers la Ingarövägen. Il verse du plâtre dans les ornières, veillant à mouler l'intégralité des empreintes. « Espérons que ce n'est qu'une précaution, » murmure-t-il. « Oui, » souffle Juna. Il monte dans la fourgonnette d'Erickson pour parcourir la courte distance qui les sépare du bâtiment. Les phares du véhicule ouvrent un tunnel d'arbres blancs à travers l'obscurité. Le chemin de gravier crie sous les pneus. Il passe devant les enclos avec leur rangée de mangeoires et un paddock à l'herbe piétinée avant d'apercevoir la voiture de Margot sur le parking. Erickson gare sa fourgonnette à côté. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Ils enfilent des combinaisons jetables, s'approchent de la voiture, la photographient et promènent ensuite la lampe de poche à l'intérieur du véhicule. La lumière scintille un instant sur la vitre, puis pénètre dans l'habitacle. Le volant, les sièges, une canette de boisson énergisante dans le porte-gobelet, des emballages de bonbons et un épais classeur de la NOA. Ils marchent vers l'écurie. Les phares de la première voiture de police arrivée sur les lieux éclairent un tracteur et un bosquet d'orties qui pousse contre un pignon peint en rouge de Falun. Trois choucas croassent avec inquiétude sur les branches d'un arbre. Erickson prend des photos, pulvérise du fixatif sur toutes les empreintes de pieds et de pneus, les signale avec des plots numérotés et note certains éléments sur un formulaire. Un policier en uniforme se tient immobile, un rouleau de ruban adhésif dans une main. Il est juste éclairé par la lueur du coffre ouvert de sa voiture. « Où est ton collègue ?» l'interroge Juna. « À l'intérieur de l'écurie, » répond-il, en accompagnant ses paroles d'un geste là. « Ne bouge pas !» lui ordonne Erickson, en commençant à sécuriser les empreintes autour de l'agent. « Ce qui est vraisemblable est souvent vrai. » Juna sait que c'est un truisme. Mais il est pourtant nécessaire de se le répéter quand l'espoir grignote trop la pensée. Il ne peut toujours pas affronter l'idée qu'il devra probablement se rendre chez Johanna et les enfants pour leur annoncer la mort de Margot. Erickson et Juna s'approchent lentement de l'écurie. Les lampes de la façade sont éteintes, mais la lumière qui s'immisce par les fissures autour de la porte permet de voir qu'une partie du sol a été balayée devant l'entrée. « Tu peux éclairer avec la lampe à infrarouge ?» demande Juna. « Bon, le moment crucial est venu. » soupire Erickson. Il se rend à la fourgonnette et récupère le matériel, le pose sur un diable, puis il déballe la lampe et l'allume. « Mon Dieu !» Le gravier devant la porte s'estompe dans la lumière invisible, tandis que le sang apparaît nettement en grappes noires et filandreuses. Bien que le sol ait été balayé, de grandes quantités de sang sont visibles sur une ligne claire qui part de la porte et court sur 2 mètres. Erickson photographie la zone, puis ramasse avec une pelle du gravier taché à 5 endroits différents qu'il verse dans des boîtes en carton. « Il faut que je puisse entrer maintenant, » dit Juna. Erickson s'approche de l'écurie. cherche des empreintes digitales sur la poignée, sur les deux battants de la porte, le montant et le mur à côté. Mon mentor mettait toujours des dalles de caoutchouc, mais moi je préfère utiliser des plaques de cheminement, précise-t-il en déballant les dalles en plastique. Il ouvre la porte, pose en soupirant la première plaque sur le seuil et enfile des protections sur ses chaussures. Jonah le suit dans l'écurie. Les barreaux devant les boxes luisent dans la lumière jaune du plafonnier. Le second policier se tient parfaitement immobile devant la sellerie. Une grosse mare de sang s'étale sur le sol en béton de l'allée centrale. De là, une longue trace file jusqu'à l'endroit où le sol a été balayé. Plusieurs traînées parallèles de sang provenant du balai sont ensuite visibles jusqu'à la porte. L'agresseur a marché à reculons et a balayé ses empreintes derrière lui. « Jonah Lina ?» dit le policier. « Je pensais que vous n'étiez pas réel, mais je me suis dit que c'était aussi bien de rester immobile au cas où vous le seriez. » « Merci. » Pendant qu'Erickson continue de poser les plaques, Jonah observe la scène de crime. Tous les chevaux somnolent dans leur box, à l'exception d'un hongre noir qui s'agite dans l'air de douche. L'auteur du crime n'a pas essayé de dissimuler son acte, son Jonah. Il a juste effacé les empreintes de ses pas sur le sol. Erickson éclaire le béton avec une puissante lumière rasante, mais toutes les traces de semelles ont disparu de l'allée centrale. Il soupire, fait une autre tentative dans une nouvelle direction, puis abandonne. « Il ne reste aucune empreinte, et la poignée de la porte a été nettoyée, » dit-il. Jonah avance prudemment, en prenant soin de marcher sur les plaques. La flaque de sang a eu le temps de sécher, mais le centre, plus épais, est encore humide et visqueux. Il n'y a pas de projection de sang. Aucune éclaboussure. Margot a été abattue avec une arme de poing. Un pistolet avec une vitesse initiale assez basse et une balle à pointe creuse, vu que celle-ci est apparemment restée logée dans son corps. Erickson humidifie une série de cotons-tiges avec une solution de chlorure de sodium. Il prélève du sang sec avec, puis les enveloppe dans des sachets en plastique. Le regard concentré, Jonah progresse lentement dans l'écurie. Il y a énormément de sang. Il est difficile de déterminer combien de temps elle est restée étendue, mais il s'écoulait encore de son corps lorsqu'elle a été emmenée. Une mangeoire noire est renversée, et on distingue les traces d'un objet qui a traîné au sol. « À quoi penses-tu ?» demande Erickson qui a suivi le regard de Jonah. « Peux-tu vaporiser du Blue Star autour de la flaque ?» Erickson va chercher le flacon et vaporise toutes les surfaces sur lesquelles le sang n'est pas visible. Les substances chimiques contenues dans le spray donnent au sang une luminescence temporaire. La moindre goutte de sang se met à briller d'une lumière bleue glaciale. Toutes les projections sont maintenant visibles, jusqu'aux plus petites éclaboussures. Jonah, immobile, essaie de lire la scène de crime avec plus de précision. Il enregistre la forme de chaque gouttelette, sa position par rapport au sol et à la gravité. À 35 cm de la flaque, de faibles points scintillent d'une lumière froide. Jonah s'en approche et se penche. Au milieu des taches de sang, on distingue des traces de rouge à lèvres rose. Le visage de Margot a dû heurter violemment le sol lorsqu'elle est tombée. Erickson prend des photos tandis que Jonah contourne la flaque et observe une rangée de 6 taches luminescentes. Comme le sang a une tension superficielle plus élevée que l'eau, les gouttes qui tombent sur une surface raisonnablement lisse ne se brisent pas. Elles conservent leur bord lisse, exactement comme cette série de gouttes sur le sol en béton poli. Les 5 premières sont légèrement pointues, indiquant une énergie cinétique dirigée vers la droite, tandis que la dernière est parfaitement ronde. « Cherche des résidus de tir par là », suggère Jonah en indiquant la série. « Ça, on me l'avait jamais fait, mais bien sûr, L'auteur du crime est droitier. Il a pointé la bouche du canon sur la victime par l'arrière, a tiré et a accompagné brièvement le corps dans sa chute, avant d'orienter l'arme dans cette direction. Tu penses que ces gouttes sont tombées du canon de pistolet ? Margot s'est effondrée en avant, la balle logée dans son corps. Son visage a cogné le sol et elle s'est fendue la lèvre. On ne sait pas si c'est le sang de Margot, tempère Erickson. En tout cas, c'est son rouge à lèvres. Tu es sûr ?
Je suis sûr de la teinte.
Je suis désolé de l'apprendre.
Marmon Erickson.
Oui, mais Margot était encore en vie parce qu'elle a essayé de s'accrocher à cette mangeoire. Je vais essayer avec du noir amido. L'agresseur l'a traînée par les pieds alors qu'elle était vivante. Il l'a mise dans une voiture, puis il est retourné dans l'écurie nettoyer ses traces, essuyer la poignée et le battant de la porte et balayer le gravier jusqu'à son véhicule. Il a ensuite pris le balai avec lui et il est parti.